je vais vous lire un extrait. Donc, il y a une trilogie rapidement. Le premier, Les Corbeaux, donc c'est le personnage. Il y a trois livres dans la trilogie. C'est le même personnage à 10 ans à chaque fois d'intervalle. Ça commence avec quelque chose qui n'est pas très original. Le héros est amoureux de deux femmes qu'il aime également et différemment et il n'arrive pas à choisir. Et comme il n'arrive pas à choisir, il est courageux. Il s'enfuit en Inde pour espérant... Entre deux femmes, il choisit la troisième parce qu'en Inde, il va fréquenter ce qu'on appelle une mère. C'est comme une sorte de femme qui a un pouvoir, des pouvoirs divins et tout. Et,
c'est
l'avatar de mère. Ce serait l'avatar de mère, mais là, je ne sais pas si on entre là-dedans, c'est de mère. Parce qu'à côté d'un grand sage, il y a très souvent une mère qui est une autre grande sage et tout. Donc, je décris, il se retrouve là-bas avec pas beaucoup d'Indiens, mais beaucoup d'Occidentaux, Italiens, Québécois, Allemands et tout. Et le roman raconte comment cette petite communauté-là poursuit une sorte de quête, quelque chose et tout. Le deuxième tome, je vais vous lire un extrait du milieu du jour. On retrouve le même personnage, mais à peu près 10 ans plus tard. Et le premier paragraphe, alors pour... si on veut continuer l'histoire de la trilogie, mais c'est pas très important. Mais j'ai tout le temps honte de dire, hey, tu as écrit sur l'histoire d'un triangle amoureux, jusqu'au jour où j'ai lu un livre de René Girard qui s'appelle « Mensonges romantiques et vérité romanesque », un livre passionnant et qui dit « Tous les romans à toutes les époques ne racontent qu'une chose, c'est le triangle amoureux. » Et là, il donne les exemples de Proust à Dostoïevski. Alors, je me suis dit, si je suis banal, au moins, je suis en bonne compagnie. Fait que voilà. Alors, l'extrait que je vais vous lire ici, c'est le héros, qui s'appelle Alexandre. Il se retrouve à l'enterrement de son père et au moment de cet enterrement, il se souvient d'un autre enterrement, d'un autre service funéraire. 10 ans auparavant, il est assisté à un service funéraire d'un ami qui s'appelle Nicolas et qui est un écrivain plus vieux que lui et qui s'est suicidé, donc il y a 10 ans. Et cet ami-là était comme son mentor. Donc, c'était, on parle de l'autre comme miroir. On peut dire, puisque ce n'est pas un grand secret, la plupart des gens l'ont vu, que c'était Hubert Aquin. Alors, et parce que Hubert Aquin, c'était celui qui a publié mon premier livre. Il était directeur aux éditions La Presse et mon premier roman a été publié par lui. Et j'avais beaucoup aimé le prochain épisode. Donc, c'était Hubert Aquin, c'était une figure, ceux qui l'ont rencontré, c'est il y en a qui le détestaient, mais moi, ça n'a pas été le cas. Un, parce qu'il avait publié mon livre, puis deux, parce qu'il y avait quelque chose de magnétique et tout. Alors, l'extrait que je vous donne, c'est... Et tout le livre, au fond, est relié un peu à cela, parce que le héros, Alexandre, s'était identifié à lui, et son héros se suicide, alors c'est un choc pour lui. Alors, ça commence... C'est le thème de l'autre et tout. Alors, il y a deux extraits, je vais vous choisir. Donc, on se projette tout le temps donc dans un écrivain. Alors, je ne dis pas que c'est propre à notre génération, mais c'est très, très... Les héros de notre... Les écrivains de notre génération, un peu plus jeunes, on peut dire qu'on est de la même génération, très souvent, leurs héros et héroïnes sont des écrivains. J'ai remarqué ça, c'est vrai en France, c'est vrai partout. Avant, c'était peut-être autre chose, mais en tout cas, la plupart du temps, nos héros sont des écrivains. Alors, il se retrouve au service funéraire de son père. « Comme le Christ sur la croix. Au premier mot de l'homélie, je me suis retrouvé 15 ans plus tôt à une autre messe funéraire. Mon père serait donc enterré à peu près le même jour et le même mois que Nicolas. Nicolas, on se connaissait à peine. Pourtant, lorsque j'avais appris sa mort, j'avais pleuré et bu pendant toute une journée. Le coup était parti, je ne savais d'où, et avait touché en moi quelque chose que je ne pouvais ou ne voulais pas voir. Je me sentais aussi démuni que quelqu'un qui souffre sans raison, qui souffre d'autant plus que sa souffrance est injustifiée. Plus je cherchais à comprendre, plus je me révoltais contre moi-même, m'accusant de mollesse, de sentimentalité, d'exhibitionnisme. Tiens, tiens, on s'invente un petit séisme pour secouer sa petite planète. On profite de la mort d'un aîné pour arroser un peu son jardin. Bien sûr, je pouvais toujours évoquer cette nuit où j'avais lu un livre de Nicolas pour la première fois, seul et désespéré dans la guérite du parking de l'usine dont j'étais le gardien. À chaque page, ce livre disait qu'il y avait peut-être un avenir pour ceux qui veulent toujours mourir et qui ne peuvent aimer sans sombrer aussitôt dans la lumière ou les ténèbres. Bien sûr, je lui étais reconnaissant d'avoir aimé, 10 ans plus tard, mon premier livre. Bien sûr, il y avait eu ces quelques rencontres entre nous où parfois, derrière leurs masques respectifs, nos regards s'étreignaient comme des noyés au fond d'un lac ou d'une rivière. Mais tout cela, cette filiation littéraire, cette amitié naissante, ça ne faisait pas un deuil. Ce jour-là, ma fille, qui avait maintenant 10 ans, rentre de l'école et demande ce qui se passe. Ma femme lui répond qu'un de mes amis est mort. La mort, ma fille, elle connaît ça. Son chien s'est fait frapper par une voiture alors qu'il traversait la rue pour aller la rejoindre sur le trottoir de l'autre côté. Pendant des mois, elle s'était dit que son chien était mort à cause d'elle, qu'elle aurait dû l'attendre ou le prendre dans ses bras. « C'est pas grave, me dit-elle. Mourir, c'est comme si on était vivant, mais partout. » Le lendemain, je recevais la seule lettre que Nicolas m'ait écrite, postée le jour même de son suicide, dans laquelle il m'exhortait à écrire. Je m'étais vite remis de la mort de Nicolas, dont chacun donnait une explication. La mort d'un chômeur, d'un prophète, d'un malade, d'un écrivain en panne. Explication qui me mettait à l'abri de la vérité que j'avais ressentie violemment et qui me reliait de façon obscure à son destin. Une œuvre, même réussie, ça ne suffit pas à vivre. Après tout, je n'étais ni chômeur, ni prophète. La maladie était un pays lointain qu'habitait Françoise et j'étais en plein milieu d'un roman qui allait bon train. J'avais donc oublié nos regards qui s'étaient étreints au fond d'un lac et que j'avais vu et que j'avais sans doute imaginé. J'avais rangé dans mon cœur la lettre d'adieu qui me délivrait un passeport d'écrivain et j'étais parti pour la Grèce, bien sûr avec femme et enfants. Pendant cet été-là, j'avais songé à écrire un essai sur Nicolas en m'inspirant d'Empédocle tel que vu par Hölderlin. Empédocle devait mourir parce qu'en lui s'incarnait et se résolvait le conflit de toute une époque. La ressemblance entre cet Empédocle et Nicolas était frappante. Je comprenais très bien cette idée de sacrifice nécessaire à la réconciliation des contraires, mais je n'arrivais pas à voir les termes antagonistes propres à notre époque qui auraient fusionné en Nicolas, causant du même coup sa perte. Faute d'avoir le génie d'Hölderlin, j'avais abandonné ce projet, convaincu du reste que ce que Nicolas attendait de moi, c'était que j'écrive le livre qu'il n'avait pu écrire. Qu'était ce livre et comment pourrais-je l'écrire, moi qui n'avais pas l'ombre du talent de Nicolas? Le vœu de Nicolas, me dis-je, n'était probablement qu'une généreuse formule d'encouragement, et pour le satisfaire, il me suffirait d'écrire un livre de plus que lui. Il en avait écrit 4, j'en écrirais 5. Tel était le pacte que j'avais conclu avec lui et qui avait constitué, à part quelques rêves, l'essentiel de notre relation au fil des ans. L'auteur de la dernière œuvre, un essai consacré à la vie et à l'œuvre de Nicolas, avait-il trouvé pourquoi Nicolas s'était tué? Quelle était notre dette envers lui? Je retournais ce livre sur Nicolas entre mes mains, tout en regardant la photo de Nicolas sur le mur près de ma table, comme si j'attendais qu'il me donne l'autorisation ou la force de remuer ses cendres. Oui, j'avais peur. Hölderlin n'aurait pas dû rôder autour de l'Etna. Il vaut mieux ne pas réveiller des volcans. J'ai ouvert le livre et j'ai plongé. Quand j'en suis ressorti, il était minuit passé. Nicolas n'était ni un chômeur, ni un prophète, ni un malade. C'était un écrivain en panne à la 10e page de son roman et un homme qui rentrait d'Italie avec l'une des deux femmes qu'il aimait et qu'il s'apprêtait à repartir, seul et pour toujours. Et petite image pour montrer que le héros peut se projeter dans l'image d'un autre écrivain mort, mais il peut se projeter aussi, comme ça se produit dans ton livre, sur autre chose. Alors, on retrouve le héros parce qu'évidemment, il passe son temps à quitter ou à être quitté. Et là, il fuit cette fois, non pas, je me rends compte, mais pas ça, il est tout le temps en train de fuir quelque part. Il fuit quelque part parce qu'il vient d'être quitté par Clara à Miami. Et il est sur le bord de la plage à Miami, il se lève le matin, très tôt, à 4 heures du matin. Et voici ce qu'il voit. Sur la plage, de l'autre côté de la rue, il y avait un clochard qui essayait de se construire un abri au pied d'un palmier avec des morceaux de carton et de plastique qu'il disposait autour d'un banc. Il était maladroit. Il n'avait aucune méthode. Appuyait ceci contre cela, regardait ce qui lui restait des précieux matériaux trouvés quelque part, comme si le but de l'opération n'était pas de construire quelque chose qui tienne, mais bien d'utiliser toutes ces ressources que la Providence venait de lui donner. Quand il avait joué toutes ses cartes, il se glissait à l'intérieur de son château, qui s'écroulait immanquablement sur lui, et il recommençait, patiemment, indifférent à la pluie qui continuait de tomber. Comment un clochard pouvait-il à ce point manquer d'expérience dans l'art du bivouac? Il devait être saoul, sinon il aurait déjà compris qu'il devait inverser la base et le sommet. Jamais le dossier du banc ne pourrait soutenir l'idée d'un toit. Il fallait plutôt recouvrir le siège avec le plastique et se coucher en dessous, sur le sol recouvert de carton. Mais pour cela, il lui aurait fallu renoncer à une partie de ce foutu banc qui était sa réalité la plus familière et qu'il s'entêtait à vouloir incorporer dans son idée de château que lui avait inspiré la découverte du plastique et des cartons. L'agacement que j'éprouvais à le regarder travailler ainsi, travailler aussi mal, s'est transformé en un mouvement de sympathie et de culpabilité. J'étais là, dans un hôtel confortable, à ruminer ma langueur de mal aimé, alors que lui serait bientôt chassé de son rêve, avant même d'avoir pu s'y reposer. J'ai pensé aller lui porter mon parasol, qu'il pourrait vendre ou fixer d'une façon ou d'une autre au dossier du banc, mais il m'aurait fallu déranger le veilleur de nuit, vieillard acariâtre qui avait une tête de bagnard. L'âme du bourgeois, c'est bien connu, est pavée de bonnes intentions. Voilà. Et le meilleur, parce que je me suis rendu compte de ça, quelque chose de magique quand même quand on écrit, parce que les meilleurs coups, on n'y pense pas. C'est parce que le héros qui est là, qui regarde le clochard, qui essaie de se construire un abri du plywood puis des morceaux de carton, ce qui va arriver, c'est qu'il va avoir le fameux ouragan Andrew, et ça, c'est vrai, I was there. Il va avoir, alors quand il sort le matin, après avoir vu le clochard, tout Miami est placardé avec du plywood parce que l'ouragan s'en vient. Alors, la condition du clochard va être la condition de toute la population de bourgeois de Miami pendant une semaine. Alors, c'était pas calculé, c'est arrivé comme ça. Voilà.